Bonjour à tous. Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs, monsieur le rapporteur général du budget, je me réjouis d'ouvrir cette nouvelle édition de la matinale de l'économie, une manifestation qui se tient depuis 10 ans à l'Assemblée nationale, en partenariat avec l'Association française de sciences économiques. J'ai souhaité que la Galerie des Fêtes accueille de nouveau cet événement, parce qu'il s'inscrit parfaitement dans la politique d'ouverture qui est la mienne, celle d'une Assemblée nationale ouverte qui s'adresse aux jeunes, qui s'adresse aux chercheurs, qui confronte et rapproche les points de vue, bref, une Assemblée nationale où l'on débat en s'appuyant sur la meilleure expertise. Aussi, je souhaiterais remercier les économistes qui ont accepté de participer à ce débat et Jean-Marc Vittori qui a bien voulu en être le modérateur. Je remercie également les députés qui participent aujourd'hui à votre table ronde, Aurélie Trouvé, dont je salue le travail de suivi de l'inflation accompli pour le compte de la Commission des affaires économiques, et Jean-René Cazeneuve, rapporteur général du budget de la Commission des finances, pourtant si sollicité par ailleurs. Quand nous avons réfléchi au thème de cette nouvelle édition, celui de la lutte contre l'inflation s'est très vite imposé. Alors que le pouvoir d'achat figure toujours en tête des préoccupations des Français, l'inflation atteint des niveaux que nous n'avions pas vus depuis longtemps. L'INSEE nous donne quelques chiffres qui nous permettent de saisir l'ampleur de l'enjeu. En 2022, les prix ont augmenté de plus de 5%, bien plus que les 2% visés par la Banque centrale européenne. L'inflation est encore plus forte sur certains produits, alimentaires en particulier, plus 8% sur le lait, le fromage et les œufs, plus 17% sur les huiles. Pour nous, parlementaires, l'enjeu est alors de répondre à cette situation exceptionnelle afin de protéger les ménages, les entreprises et les collectivités. C'est ce que nous avons fait avec le bouclier tarifaire, notamment sur les prix de l'énergie et avec différentes aides sectorielles. Cependant, pour imaginer et mettre en œuvre des mesures les plus pertinentes, nous avons besoin de l'expertise scientifique. Vous connaissez tous, j'imagine, la phrase de Keynes. Tous les hommes politiques appliquent, sans le savoir, les recommandations d'économistes souvent morts depuis longtemps et dont ils ignorent le nom. Eh bien, pour une fois, faisons mentir Keynes. Cette matinale permet aux politiques et aux économistes de se rencontrer, d'échanger, en vue d'aboutir, peut-être, à des solutions transpartisanes. Du point de vue de la théorie économique, la situation actuelle pose en effet de nombreuses questions. Combien de temps l'épisode d'inflation va-t-il durer ? D'où vient cette inflation et comment se diffuse-t-elle dans l'économie ? La nouvelle donne économique doit-elle nous conduire à changer d'outils d'analyse ? Comment protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens tout en faisant diminuer l'inflation jusqu'à un niveau plus acceptable ? C'est sur toutes ces questions ardues mais passionnantes que je vous invite maintenant à échanger. L'inflation est une taxation sans législation, écrivait Milton Friedman, qui faisait aussi cette comparaison parlante. L'inflation est comme l'alcoolisme. Lorsqu'un homme se livre à une beuverie, le soir même, cela lui fait du bien. Ce n'est que le lendemain qu'il se sent mal. Aidons la France à ne pas avoir la gueule de bois. L'organisation de la matinale de l'économie est aussi l'occasion de récompenser les auteurs de travaux économiques remarquables. Et ce n'est pas à moi de les nommer, mais ils vont bientôt recevoir leur trophée. Et donc avant que vous commenciez le débat à proprement parler, je tiens à féliciter avec vous les lauréats de cette année. Je vous remercie.
Bonjour à tous, je suis Pascal Lemerer, directeur du Journal de l'économie, et on avait créé avec l'Assemblée nationale, en effet en 2013, cette matinale. Je souhaitais qu'on arrive à rapprocher les réflexions des économistes de celles des parlementaires, et j'ai trouvé qu'au fil des années d'ailleurs, les choses avaient beaucoup changé, que les échanges étaient beaucoup plus fructueux. Au début, je me rappelle qu'on avait un débat sur la croissance, et il y avait un débat sur est-ce qu'il faut être protectionniste ou pas pour favoriser la croissance, je peux vous assurer que les discussions, là, étaient un peu difficiles entre économistes et parlementaires. Et puis, au fil des années, j'ai trouvé que le rapprochement était assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait des interactions et que, des deux côtés, on s'écoutait de plus en plus. Je regardais les derniers sujets qu'on avait traités pour vous dire à peu près, je pense, l'ambition qu'on avait. Vous voyez, on avait fiscalité et démocratie, Agir pour le climat, c'est maintenant. Les territoires durables au défi de la localisation. Et cette année, inflation, que faire pour sauver le pouvoir d'achat? J'ai l'impression qu'on est vraiment sur des sujets à chaque fois qui obligent les économistes à se rapprocher de la réalité et qui permet aussi aux parlementaires, là, d'échanger sur des expertises et peut-être aussi d'avoir un côté un peu poil à gratter avec nos économistes qui sont souvent un peu sur des mondes qui sont très homogènes, un peu des mondes, en tout cas, qui peuvent sembler éloignés de la réalité. Donc je trouve que c'est cette interaction qui est essentielle pour nous tous. Et puis pour tous les élèves qui sont là, je pense que ce sont des moments importants. Quand vous êtes dans le Palais de la République, ici, je crois que vous voyez vraiment comment fonctionne aussi une démocratie. La démocratie a besoin d'experts, la démocratie a besoin de politiques qui s'investissent ici dans leur mission. Alors on va avoir exactement là la concrétisation, je crois, de ce rôle que j'ai souhaité que l'on ait avec cette matinale, comme avec les journées de l'économie qui se tiennent tous les ans en novembre à Lyon, et où il y a aussi des milliers d'élèves qui viennent. Et je propose donc de commencer tout de suite avec Annie Cotte, qui va remettre les prix des livres d'économie de l'Association française de sciences économiques. Merci Annie.
Merci Pascal, Madame la Présidente, Messieurs les députés, chers amis, chers étudiants et chers amis, pardon, chers élèves. L'Association française de sciences économiques décerne chaque année des prix des meilleurs livres d'économie de l'année précédente. Donc pour nous, ce sera 2022. Et je suis ravie cette année de vous parler du jury, de vous présenter les 4 ouvrages primés et de donner la parole aux auteurs de ces 4 ouvrages pour parler un peu de leur livre. Alors le jury cette année était composé de 4 femmes et 4 hommes, tous membres du comité directeur de l'AFSE par ordre alphabétique. Annie Pollard qui est là, non elle a disparu, elle est là, qui est professeure à Dauphine, Françoise Benamou, professeure à Paris 13, je ne vois pas Françoise, Pascal Lemerer qui vient de parler, qui est professeur à l'ENS de Lyon, qui a inventé les GECO, qui a inventé cette coopération avec la matinale de l'économie et qui probablement est la personne qui anime le plus les relations entre les économistes et la société civile en France. Valérie Mignon, professeur à Nanterre, Jean-Eudes Moncombe, secrétaire général du Conseil français de l'énergie, Lionel Rago, professeur à Nanterre, et bien sûr Jean-Marc Vittori, qui est ici au centre, évidemment, qui va tout à l'heure animer ces débats. Alors nous avions une shortlist, pardon pour l'anglicisme, une liste courte, on dit une shortlist, de 9 ouvrages, par ordre alphabétique, Hippolyte Dalbis, Les seniors et l'emploi, Yann Algan et Lise Huillery, Économie du savoir-être, Maya Bakache-Beauvalet et Marc Bourreau, Économie des plateformes, Denis Cognot, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle, Thomas Coutreau et Coralie Pérez, Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire, François Heitner, catholique et économiste, leur controverse depuis la Révolution, Éloi Laurent, Économie pour le 21e siècle, Manuel des transitions justes, Olivier Petit, Géraldine Froger et Tom Boller, Économie écologique, une perspective européenne, et enfin Alain Tranois et Étienne Vasmer, Le grand retour de la terre dans les patrimoines, et pourquoi c'est une bonne nouvelle. Alors sur cette liste, donc on voit quand même que les thèmes sont des thèmes qui sont, voilà, un membre du jury, là je ne t'avais pas vu mon cher. Donc nous avons décidé de primer 4 ouvrages. Dans la catégorie des manuels, un poche, c'est la première fois que ça arrive, mais il est formidable pour un poche et c'est un manuel. Donc je vois qu'il y a des jeunes têtes là. Précipitez-vous sur l'ouvrage de Maya Bakache-Beauvalet et Marc Bourreau, Économie des plateformes. Précipitez-vous sur les autres aussi. Dans la catégorie essai, Denis Cognot, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle. Je suis particulièrement heureuse que ce prix soit remis dans une assemblée politique parce que c'est une réflexion sur l'Empire français jusqu'à aujourd'hui et donc jusqu'aux traces de France-Afrique, grosses traces de France-Afrique. Et donc c'est absolument passionnant sur la relation entre la France et ses anciennes colonies. Et nous avons attribué 2 mentions spéciales à un ouvrage qui propose une réforme fiscale passionnante qui est l'ouvrage d'Alain Tranois et Étienne Vasmer, Le grand retour de la terre dans les patrimoines et pourquoi c'est une bonne nouvelle, et à François Ettner, catholique et économiste, leur controverse depuis la Révolution. Je voudrais, comme chaque année, remercier le libraire. Nous remettons des prix. Madame la Présidente, vous citiez quand même Keynes et les économistes morts. Alors moi, j'aime bien les économistes morts, c'est un peu mon métier. Donc, nous remettons des prix d'économistes morts pour ces jeunes économistes vivants et brillants, pour quand même leur plomber un peu le neurone. Donc, je voudrais remercier Patrick Hatchuel, qui est un merveilleux libraire d'ouvrages d'économie anciens et qui m'a aidé pendant toute une après-midi à trouver des ouvrages qui pouvaient correspondre. Alors, je commence par la présentation du livre de Maya et Marc, qui s'intitule « Économie des plateformes ». Là, on n'a pas pu trouver d'économistes morts pour les prix, parce que l'intérêt du livre est que l'économie des plateformes, c'est une économie extrêmement récente, et donc qui renouvelle la théorie de l'information et des marchés de l'information, qui avait déjà largement bouleversé la microéconomie depuis les années 50, et qui constitue une synthèse sur une des formes contemporaines de ces marchés, donc l'économie des plateformes. Alors je pense que les plus vieux d'entre vous ne savent peut-être pas ce que sont les plateformes, mais les jeunes les utilisent 47 fois par heure, par matinée, enfin quelque chose comme ça. Alors, cette synthèse, elle est présentée dans un petit ouvrage qui est remarquable de clarté, c'est pour ça que nous ne l'avons pas primé dans la catégorie des poches, mais dans celle des manuels qui est destinée aux étudiants, pour ses qualités de synthèse et de clarté analytique. 5 chapitres, l'essentiel est là. Une typologie des modèles de plateforme, les plateformes multifaces, genre Doctolib, qui mettent en relation différents groupes d'utilisateurs, les modèles de revendeurs qui achètent en gros des biens et des services et les revendent, Amazon, vous connaissez tous, les plateformes, il y en a d'autres, mais je prends des exemples, les plateformes de produits, les plateformes d'innovation. La typologie est clairement dessinée et elle soutient l'analyse ensuite des stratégies de ces plateformes par les tarifications, les effets de réseau, contrôle de qualité, différenciation des commissions, les formes de concurrence qu'elles développent, et tout ça dans un tout petit ouvrage que je devrais vous montrer. Tout petit. Avant de développer les modes possibles de régulation de leur développement, ce qui est un sujet absolument d'actualité en ce moment, je crois qu'il y a tout un débat sur la régulation de Airbnb qui s'ouvre aujourd'hui, discuter la question des modifications des équilibres sociaux que ces plateformes induisent en termes d'organisation du travail, d'externalité, d'externalisation des tâches, de déqualification, de précarité. Et enfin, l'ouvrage se conclut sur une analyse cette révolution numérique et donc de l'économie des plateformes sur les grands équilibres macroéconomiques. Tout ça dans un tout petit ouvrage remarquablement fait. Donc, Maya, Marc, merci infiniment. On n'a pas trouvé je n'ai pas trouvé d'ouvrage ancien, mais voilà, j'ai trouvé un peu de littérature, littérature comme ça. Donc, je remets. Il va y répondre maintenant, mais je donne toujours. Alors, on fera les réponses des auteurs après. Je continue. Deuxième ouvrage primé dans la catégorie essai, l'ouvrage de Denis Cognon, Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 21e siècle. C'est pas un poche. C'est lourd, c'est dense, et c'est absolument passionnant. Alors, on connaissait déjà les avancées historiographiques des 15 dernières années autour de l'inscription de la France dans un cadre large, et notamment le grand ouvrage de Patrick Boucheron, Pierre Saint-Garavellou, etc. Et c'est dans cette lignée, d'une certaine manière, que s'inscrit l'essai de Denis, qui par ailleurs est économiste du développement, donc il y a une grande pratique des statistiques sur le développement et sur les relations Nord-Sud. Sur un très important travail statistique, je ne suis pas sûre qu'il l'ait fait complètement seul, parce qu'à mon avis, il faut une équipe gigantesque pour accumuler ça pendant 10 ans. Il construit ce plaidoyer, cette démonstration plutôt, en s'appuyant aussi, et encore une fois, j'y suis sensible, sur une présentation analytique très fine des théories économiques du XIXe siècle sur les colonies. Alors, l'ouvrage analyse le fonctionnement politique, économique, commercial, financier des États qu'il appelle coloniaux ou militaro-coloniaux, qui ont été mis en place par la France au cours du processus de colonisation. Structure administrative, flux de capitaux, recrutement de soldats, fiscalité, inégalité. La démonstration est très solidement étayée. La conclusion est sans appel. L'Empire français a été un empire bon marché. Ça veut dire qu'il a peu coûté, sauf au moment de la conquête militaire. Il a peu coûté aux finances de la France et il a bénéficié non pas aux pays colonisés mais, et à leur population, mais à un petit groupe de colons, de fonctionnaires coloniaux et de ce que Denis appelle quelques capitalistes moyens en métropole. Ce qui est intéressant dans cette analyse historique, c'est que cette analyse très très fine éclaire a posteriori les structures qui sont mises en place après les indépendances. Des économies duales qui ont été décrites dans les années 60-70 par Samir Amin, René Dumont, Frantz Fanon, une dissolution des fédérations coloniales, une balkanisation de l'Afrique et la relative permanence, je l'évoquais tout à l'heure, de la France-Afrique, même si elle est réduite par rapport à la période qui va de l'immédiate après-guerre aux années 62, mais dont la France ne se débarrasse pas, si j'ose dire. Denis nous en parlera tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Merci. Madame la Présidente, je ne vais pas empiéter sur votre prérogative. Troisième prix, Alain et Étienne. Alain Tranois, Étienne Vasmer, le grand retour de la terre dans les patrimoines et pourquoi c'est une bonne nouvelle. Alors là aussi, on est dans une catégorie différente. Il se trouve que le jury, dans sa grande sagesse, le jury a primé 4 ouvrages très différents et c'est une bonne chose parce que ça illustre la variété, la pluralité et la richesse de la production des économistes français sur la scène académique ou théorique. De production littéraire, de production de livres d'économie. Alors, un constat, faire le point de départ au livre, le patrimoine foncier de la France vaut aujourd'hui 7 000 milliards d'euros, soit 3 fois le PIB, ou 6 années de revenu national, contre une année à peine après la Seconde Guerre mondiale, une hausse que Alain et Étienne expliquent, qui s'explique, vous n'êtes pas les seuls, par la valorisation constante du capital foncier urbain. La valeur des terres bâties dépasse 80% de la valeur totale, alors que les terres agricoles n'en représentent que 9%. Et ce phénomène n'est pas spécifique à la France. Donc, la part du foncier dans la valeur immobilière totale est égale, en France, je n'ai pas le chiffre, c'est vous qui me direz tout à l'heure, est égal en France à 44%, aux États-Unis à 46%, en Suisse à 53%. Donc on a ce constat qui est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on vous apprend, jeunes gens, dans vos cours, qui est la terre, c'est le prix de la terre en France, c'est le prix de la terre urbaine, c'est pas le prix des terres sur lesquelles poussent des marguerites. Donc sur la base de ce constat statistique, Alain et Étienne proposent de repenser le système fiscal en taxant cette richesse immobilière et foncière de manière à pouvoir réduire drastiquement les impôts sur le travail et le capital, donc de favoriser la réindustrialisation et la croissance. Donc il s'agit là d'un changement de base fiscale qui est décrit à la fois comme juste, les inégalités se traduisent en France par des inégalités de capital foncier. Donc ce seront les principaux bénéficiaires des plus-values foncières qui paieront proportionnellement la plus grande partie de cet impôt. Et une réforme efficace, la terre, contrairement au capital financier, a du mal à s'évanouir dans des montages financiers ou des paradis fiscaux. Il est difficile de faire disparaître la terre. L'idée n'est pas nouvelle, toujours l'histoire des économistes morts. On la trouve déjà sous la plume de Léon Valras. J'espère que vous savez tous ce que c'est, je parle de la petite génération, qui est Léon Valras, qui fait la nationalisation des terres sa principale proposition de réforme fiscale, et évidemment aux États-Unis sous la plume d'un auteur qui a été très discuté, qui est Henry George. Voilà, un siècle plus tard, Alain et Étienne la reprennent, la développent avec le même objectif actualisé, une taxe de 2% universelle sur le capital foncier qui devrait rapporter un montant de 60 milliards d'euros, qui devrait permettre de relancer la croissance, de consolider le modèle social né dans l'après-guerre dont on a parlé ces derniers mois un peu, et de repenser les enjeux environnementaux de l'aménagement du territoire, notamment en densifiant les zones habitables et en luttant contre les phénomènes de périurbanisation sociale, ce qui justifie d'autant plus de rouvrir un débat, peut-être l'année prochaine, mon cher Pascal, sur cette révolution fiscale. Voilà, merci, c'est absolument passionnant à lire et je vous conseille à tous de lire ce livre. Oui, alors, il y a le petit et puis ensuite la grosse pile. Et il se débrouille entre les deux. Bien sûr.
Parfait. On sortait de l'île, tout ça. C'est pas des cadeaux, d'accord.
C'est plus joli. Ça aussi, la presse est là. Dans un humble mariage.
Très bien, comme je le sais. Voilà. Merci à vous.
Alors, je vous disais que c'était quatre ouvrages complètement différents. Là, on a un livre d'histoire de la pensée économique qui est absolument remarquable, qui est un livre d'un des grands spécialistes du domaine d'histoire de la pensée économique et du 19e siècle, François Heitner, qui est là. Catholique et économiste, leur controverse depuis la Révolution. Alors, on connaissait tous, un certain nombre d'entre nous connaissaient les travaux de François sur les ingénieurs économistes français, sur les libéraux de la fin du 19e siècle, mais le sujet qu'il attaque dans ce beau livre qui est paru chez les classiques Garnier, n'avait jamais été traité systématiquement. Et il s'agit donc d'essayer de faire une synthèse sur les arguments théoriques échangés entre les libéraux et les penseurs catholiques au moment de la Révolution française, de voir que ces échanges n'ont jamais cessé et d'utiliser ces échanges comme grille de lecture pour repenser à nouveau frais toute une série de thèmes de théorie économique qui étaient traités de manière un peu banale sur la question du libéralisme, sur l'État et les moyens de traiter de la misère ouvrière, sur la position des économistes socialistes d'avant 48, ce qu'on a appelé après les utopies, sur le rôle de la famille, sur la question de la contraception, sur la réglementation du travail, sur les coopératives ouvrières, sur le solidarisme, sur le corporatisme, sur le darwinisme, sur l'évolutionnisme, sur le personnalisme, sur la question du tiers-monde. Donc c'est un prisme formidablement original et je suis absolument ravie de primer cet ouvrage avec le jury, au nom du jury, qui permet d'intégrer à l'historiographie un regard de côté sur ces débats et de casser le moule un peu trop traditionnel et un peu ronronnant de l'histoire des théories économiques telle qu'elle avait pu être pratiquée jusqu'à maintenant. Merci François.
Bonjour à tous, merci beaucoup Annie. Après cette présentation, je pense qu'on aura du mal à dire quoi que ce soit d'autre de plus agréable que ce que tu as dit sur notre ouvrage. Merci énormément, on est très heureux de ce prix pour plein de raisons. Donc d'abord, remerciement bien sûr à l'AFSE, au jury, Annie, au membres du jury présent. Merci au Journal de l'économie, Pascal, pour tout ce que vous faites pour les liens entre économie et société. Et on voudrait aussi remercier particulièrement notre éditeur, donc la collection Repères, et Pascal Combal, qui était à la tête de cette collection, qui, je crois, aussi a fait un travail formidable à destination des étudiants. Et que cet ouvrage soit primé dans la catégorie manuel à destination des élèves et des étudiants, ça nous tenait particulièrement à cœur, parce que ce cours, en fait, voilà.
C'est un ouvrage qui est le fruit d'un cours qu'on donne depuis plusieurs années à l'École Polytechnique, à Sciences Po et dans le Master Irène à Dauphine, à l'Université Dauphine. Et c'est un ouvrage qui était inspiré par tous les retours qu'on a eu des étudiants sur le cours. Et donc on remercie aussi tous les étudiants qu'on a eu depuis de nombreuses années et qui nous ont aidés par les échanges qu'on a eu avec eux à écrire cet ouvrage.
Et un dernier mot rapide, on y tenait aussi particulièrement, enfin on est très contents de ce prix, parce que je crois que c'est le premier ouvrage en français sur le sujet. Les plateformes, vous l'avez dit, c'est quand même l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et ça nous avait étonné qu'il n'y ait pas de manuel en français sur cet objet, donc on était très heureux de le faire à cause de ça. Et aussi pour sortir les plateformes de l'unique enjeu, modèle économique, c'est-à-dire de l'unique enjeu rentabilité, innovation. On a aussi voulu voir tous les aspects du sujet, y compris les inégalités, le travail, la croissance et la régulation, comme tu l'as indiqué. Donc voilà, donc on était particulièrement heureux pour ça. Merci beaucoup.
Merci.
Ce n'est pas mon livre, c'est le cadeau que j'ai reçu qui s'appelle « Lettres sur les politiques coloniales » d'Yves Guyot. Et donc, je remercie Annie Loucott pour ce très bon choix de cadeau. Je remercie bien entendu la FSE et je suis très honoré, très heureux de recevoir ce prix d'essai. Je ne reçois pas tellement de prix dans ma vie, donc je crois que c'est même le premier principal. J'ai reçu une fois un prix du meilleur article, mais un article et un livre, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez vu la taille du livre, bon en plus, c'était pas tout à fait la taille d'un article. Je suis aussi ravi de l'invitation de l'Assemblée nationale donc pour présenter ce livre sur un thème qui je crois a été finalement trop rarement traité depuis les indépendances africaines. En réalité, peut-être que comme mon collègue Thomas Piketty, il est aussi le directeur de la collection du Seuil dans lequel je suis publié, l'exprimait pour l'histoire des inégalités. Il y a eu un moment, un no man's land entre l'histoire des inégalités et puis l'analyse des inégalités en économie. Et je crois que pour l'histoire de la colonisation ou des politiques coloniales, il y a un petit peu la même chose. Il y a eu un trou générationnel d'une certaine façon. Il y a parmi les livres qui ont précédé le mien, il y a un livre très célèbre qui a longtemps fait autorité, qui s'appelle qui est un livre de Jacques Marseille, publié en 1984. Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce. Mon livre apporte d'une certaine façon une contradiction à ce livre de Jacques Marseille. Et ce livre, vous voyez, il était publié en 84, donc il faut attendre 40 ans pour avoir cette contradiction. C'est un peu surprenant. Alors, Annie Lou a fait le pitch et le blurb de mon livre, donc je crois que je vais pas du tout le résumer. Je vais peut-être juste terminer en disant les motivations qui m'ont poussé à faire ce livre, et puis en évoquant aussi effectivement le travail d'équipe dont il a été question. Alors, grande équipe, je dirais pas. Petite équipe, c'est pour ça que ça prend du temps. Donc, soit on a beaucoup de gens et ça prend un peu moins de temps, soit on est une petite équipe et ça a pris quand même une dizaine d'années pour accumuler les données nécessaires pour ce livre. De façon un peu, on aurait pu se dire, il n'y a pas beaucoup de travaux sur l'histoire économique de la colonisation. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'archives. C'est pas vrai. Il y a beaucoup beaucoup d'archives et pas beaucoup de travaux. Alors c'est vrai que les générations précédentes bénéficiaient pas de la des technologies numériques pour extraire ces archives, et donc ce progrès technique est tout à fait considérable et fondamental dans notre capacité actuelle à gérer à gérer ces humanités numériques et ces archives coloniales qui sont très vastes dans le cas français, mais qui sont aussi très vastes dans le cas britannique. On a fait une partie d'extraction aussi d'archives britanniques aux fins de comparaison. Donc une petite équipe, je voudrais citer au moins deux collègues, Yannick Dupraz, un de mes anciens doctorants qui est actuellement chargé de recherche au CNRS et qui travaille à l'AMSE, à Aix-Marseille aujourd'hui, et puis Sandrine Mesplessomps qui est directrice de recherche à l'IRD. C'est vraiment les deux collègues avec lesquels on a construit toutes ces données. Alors, juste deux motivations principales. Annie-Lou a rappelé que j'étais économiste du développement à l'origine. Effectivement, je suis économiste du développement et je continue de l'être, même si, d'une certaine façon, ce livre témoigne du fait que j'ai un peu évolué vers d'autres horizons intellectuels, en particulier l'histoire économique. Essentiellement parce que la première partie de ma vie, je veux dire plutôt de ma vie professionnelle, disons, effectivement, a consisté à travailler sur les politiques contemporaines de développement en Afrique, et je me suis confronté à des pratiques, que certains qualifieraient de post-coloniales d'une certaine façon, en tout cas des héritages qui témoignent de la persistance d'une France-Afrique. Annie-Lou a prononcé le terme. Je me suis interrogé sur ces héritages et comment les transformer. Et j'ai réalisé, chemin faisant, que finalement l'histoire économique et politique de l'Empire français ou de la colonisation française souffrait de nombreuses lacunes. Mes lectures étaient un peu décevantes. Voilà. Donc c'est la combinaison de cette questionnement d'économie du développement de terrain, d'une certaine façon, et puis la déception de ne pas trouver toutes les réponses dans la littérature précédente qui m'ont amené à faire ça. Je termine en évoquant deux enjeux pour l'avenir. Le travail n'est pas terminé. Ce livre, même s'il fait 500 pages, le travail n'est pas terminé. Il n'est pas terminé sur l'histoire de l'Empire français. J'ai rencontré récemment les gens qui travaillent à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et c'est clair qu'il faudrait des travaux un peu plus du même ordre, du même acabit sur l'Empire français du 18e, du 17e et du 18e. Ils sont manquants. Et puis il n'est pas terminé sur le présent, hein, sur disons la France-Afrique, disons. Et dans le contexte d'aujourd'hui où on est forcé de constater que les grands espoirs formulés aux indépendances africaines de convergence de l'Afrique par rapport à l'Europe ne se réalise pas, hein. Même au niveau international, si on excepte la Chine, il n'y a pas beaucoup de convergence entre le Nord et le Sud. Dans le contexte actuel du changement climatique, la question de savoir si finalement le développement est un jeu à somme nulle entre le Nord et le Sud, ou bien si réellement des politiques gagnant-gagnant, comme le souhaitait l'un des pères fondateurs de l'économie développement, Albert Hirschman, sont possibles, reste à mon avis posée. Je vous remercie beaucoup.
Alors, d'abord, merci beaucoup au jury et à l'Assemblée de faire vivre ces débats et au GECO. Annie a souligné le mot « bonne nouvelle ». Alors, je voulais commencer par ça. Donc, effectivement, la richesse française a augmenté depuis plusieurs décennies en relativement à la production nationale. Et en fait, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on produit, on accumule et on a une espèce de filet de sécurité qui est remarquable. La terre est la composante de la richesse qui a le plus cru et qui, en fait, explique toute l'augmentation récente sur les décennies précédentes de cette richesse. Et quand on survole, comme moi, des continents et des territoires en venant ici, en venant d'Abu Dhabi, on se rend compte à quel point la terre française est fertile, protégée, que les gens la veulent, que les gens veulent l'acheter, veulent la détenir. On survole des déserts, on survole des territoires avec des guerres civiles, où la terre, en fait, ne vaut rien, parce que simplement, on a bâti en Europe un espace de sécurité, de paix, de liberté, qui se capitalise dans cette valeur. Et donc, il faut savoir ce qu'on fait de cette richesse. On a parlé tout à l'heure de 7 000 milliards d'euros, c'était en 2019. Quand on a rendu les épreuves en 2020, la valeur était à 8 000 milliards, et puis l'année d'après, 9 000 milliards. Alors on était prudent avec Alain, on s'est dit, ça va redescendre, ça va forcément redescendre, c'est peut-être en train de redescendre, et donc on va garder les chiffres de 7 000 milliards pour le livre, ça nous donne 10-15%. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'entre 2019 et 2021, la valeur de la Terre a continué à augmenter de 14% par an. Et il y a quelque chose là-dedans qui est impressionnant, ce sont effectivement les terres urbaines. C'est l'attractivité des métropoles, c'est les services, c'est aussi la rareté qu'on entretient. Et donc il y a plein d'interactions avec la politique publique. Peut-être qu'on a tort de mettre cette rareté au centre de nos décisions publiques. Et par ailleurs, quand on a commencé à travailler sur l'ouvrage avec Alain, on avait un peu peur de taper dans les classes moyennes et moyennes supérieures, mais dans les premiers échelons de la richesse, en se disant finalement on va taxer les gens qui ont des pavillons, on va taxer les gens qui sont devenus propriétaires depuis 30 ans, et on ne va pas taper dans les très très riches. Et en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Les travaux sont encore rares sur cette question, mais quand on a des chiffres détaillés de l'administration fiscale, que ce soit dans les pays scandinaves, la Norvège, la Suède, on voit que c'est extraordinairement concentré, que les gens qui possèdent les champs, les forêts, les zones commerciales sont en fait dans les top 0,1%, top 0,01%, et donc une fiscalité qui serait efficace et qui porterait sur cette masse immense, comme ça a été bien rappelé par Annie, en fait, non seulement elle est efficace, mais elle est aussi redistributive. Donc on a en tête cette idée de cette fiscalité qui remplacerait d'autres fiscalités. Il faut qu'on se retienne en tant qu'économiste de proposer une nouvelle taxe à chaque article. En fait, une fois qu'on en a une bonne, on la tient, on n'en change plus, c'est bien. Donc quand on veut financer la transition écologique, rembourser la dette ou sécuriser les investisseurs en France qui auraient peur qu'on fasse un défaut de paiement sur notre dette, gardons ce qu'on a. C'est vraiment quelque chose de considérable. Voilà.
Je vais compléter les propos d'Étienne pour d'abord dire que nous sommes très sensibles, très, très heureux et très honoré de recevoir ce prix de l'Association française de sciences économiques. Et à titre personnel, évidemment, c'est une association qui m'est chère. Je me rappelle d'avoir ici remis le prix à Thomas Piketty pour son ouvrage « Capital au XXIe siècle » dans cette même salle. Je ne sais pas si exactement c'était la même configuration, mais je voudrais évidemment remercier le jury, remercier Annie pour sa présentation du livre, très complète. J'espère que ça n'aura pas, je dirais, effrayé les gens en termes de taxation, parce que quand on parle de taxation, aussitôt les gens se disent « Oh là là, ma taxe va augmenter », on ne propose pas d'augmenter les impôts. Donc tout ceci se fait à recette constante pour le budget de l'État et d'une manière plus générale de toute activité publique. Merci aussi à Pascal, Pascal qui... est à l'origine de ces matinales de l'économie et de beaucoup d'autres initiatives avec les GECO. Et c'est un effort au long cours dont bénéficient tous les économistes français. Donc c'est un créateur de biens publics, Pascal comme Annie. Et je voudrais vous remercier le plus sincèrement possible. Quelques mots sur pour dire aussi que le prix est important à titre personnel parce que lorsque je me suis intéressé à l'immobilier depuis une vingtaine d'années, eh bien, l'immobilier, c'est quelque chose... On fait aussi des choix immobiliers dans sa propre vie. Et donc, j'ai déménagé de Paris à Marseille au début des années 2000. Et quand vous déménagez, vous avez toujours un choix entre est-ce que vous allez louer ou est-ce que vous allez acheter. J'ai regardé les prix à Marseille et j'ai regardé l'évolution des prix. Jean-Jacques Lafont avait l'habitude de dire ce qui est important, c'est la pente. Et la pente était très, très forte. Et donc, j'ai regardé par rapport, je dirais, au prix sur longue période. Et je me suis dit, c'est en train de décoller. Et on sait bien que la règle à la bourse, et ça vaut pour tous les actifs, il ne faut pas acheter quand c'est haut. Et donc, il y a eu un petit, disons, conflit entre mon épouse et moi. Ma femme voulait acheter Et moi, j'ai dit, non, non, c'est trop haut, c'est pas le moment d'acheter. Vous savez ce qui s'est passé par la suite. Donc, la grande inflation immobilière, et je dois dire que ma réputation d'économiste en a pris un sérieux coup chez moi. Et donc, j'espère que ce prix permettra peut-être de restaurer ma réputation d'économiste. J'en suis pas totalement certain, mais j'espère qu'elle y contribuera un tout petit peu. La deuxième chose, c'est que, évidemment, quand on parle de richesse et de taxes, ce sont des sujets éminemment politiques. Forcément, je relisais récemment dans le handbook of taxation, en disant, pour l'ensemble du public et pour les hommes politiques, quand on parle de taxes, c'est forcément un sujet politique, c'est forcément un sujet redistributif, et l'efficacité, c'est pas ce qui vient en tête, c'est pas ce qui vient à l'esprit pour la plupart des gens. Et donc, quand on parle richesse et taxes, quand vous vous situez à gauche de l'hémicycle politique, vous vous dites, ben, richesse et taxes, il faut taxer les riches, et donc, le sujet du livre, ils sont hors sujet, c'est pas intéressant, ils sont complètement à côté de la plaque. Quand vous adressez à la partie droite de l'hémicycle, les gens disent, oh là là, ils sont en train de, ils veulent s'attaquer à nos biens, là, là il faut surtout pas, c'est pas des idées intéressantes. Et donc, il me semble que c'est important que le prix de l'Association française économique distingue ce prix pour faire essayer d'émerger aussi une réflexion économique qui tient compte, bien sûr, de l'économie politique. Il y a bien sûr des phénomènes redistributifs, mais il y a aussi des phénomènes d'efficacité. Et si l'économiste ne porte pas la valeur d'efficacité en disant comment est-ce qu'on peut tous ensemble avoir, je dirais, un gâteau plus gros, eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autre discipline scientifique dans les sciences sociales qui l'apportera à ce niveau-là. Et puis, je voudrais dire un mot sur le livre. Alors, je ne sais pas, on ne sait pas encore accorder Étienne sur la réparation du livre, mais au hasard, j'ai reçu donc l'agriculture et la population de M. Delaverne, donc un Philippe Delaverne, membre de l'Institut de la Société Centrale d'Agriculture. Et donc, pourquoi c'est important ce livre, Annie? Mais tout simplement parce que lorsqu'on a adressé notre livre à quelques experts, et quelques experts, je dirais, bien placés, un des experts bien placés en taxation qui a occupé de hautes fonctions dans un cabinet ministériel nous a dit, elle est bien votre idée, j'aime bien vos livres, mais attention au monde agricole. Attention au monde agricole, le monde agricole m'inquiète. Et hier, je faisais intervention devant les intercommunalités de France, et aussitôt, j'ai eu des questions avec beaucoup d'anxiété sur que deviendrait le monde agricole avec la taxe foncière. Donc j'espère que grâce à ce livre, j'aurai maintenant des réponses que je ne pouvais pas encore apporter sur cette inquiétude concernant le monde agricole par rapport à cette taxe qui, dans notre esprit, est là pour résoudre un certain nombre de problèmes liés au fonctionnement des villes et de la place des villes dans l'économie moderne. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre...
C'est pour moi un grand plaisir de remercier Annie, ici présente. Je la connais depuis longtemps, très longtemps, depuis qu'elle est toute petite. Non, j'exagère. Elle a passé une grande partie de son activité professionnelle à aider les autres, à encourager le milieu académique. On lui doit beaucoup en ce qui concerne l'histoire de la pensée économique, qui est un thème qui m'intéresse. On lui doit beaucoup aussi en ce qui concerne l'épistémologie, qui est un thème que je connais moins, mais qui m'intéresse aussi. On lui doit une quantité de colloques, de séminaires, d'éditions, de relations internationales, de thèses qu'elle a encouragées, de centres de recherche qu'elle a animés. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mon livre, oui, non, mais mon livre, tu en as bien parlé. J'ai plus grand-chose à dire. Donc, qu'il me suffise de la remercier pour le travail qu'elle a accompli, qui m'impressionne et qui a porté des résultats impressionnants. Et il me reste aussi à remercier l'Association française de sciences économiques, bien sûr. Madame la Présidente, qui m'a remis un beau livre de Proudhon. Bon. Enfin, c'est un beau livre. Et de féliciter aussi Pascal Lemaireur pour ce qu'il a fait aussi pour la science économique et à qui nous devons, je crois, en partie d'être ici. Et puis, c'est à peu près tout, parce que, en ce qui concerne mon livre, ben non, mon livre, j'avais prévu d'en parler pendant une heure ou deux, mais tu as dévoilé l'essentiel, et je renvoie pour ceux qui ne l'ont pas entendu à ce que Annie en a dit. C'était parfait, voilà, c'était ce que j'en aurais peut-être dit si j'y avais pensé. Merci à tous.
Juste avant de passer à la table ronde sur l'inflation, comment sauver le pouvoir d'achat, je voulais donner un petit exemple de la pédagogie des économistes. Et je pense à Alain Tranois, là, qui a essayé de promouvoir un jeu disparu, le jeu géorgien, qui est l'ancêtre du Monopoly. Donc, je ne sais pas, peut-être certains ont joué au Monopoly, ça date un peu, mais... Eh bien, le tableau de jeu du Monopoly a un ancêtre. Il s'appelle le jeu géorgien, donc jeu sur la terre. Et aux Journées de l'économie, grâce à Alain Tranois, on va faire revivre ce jeu-là avec les lycéens. Et je voulais vous le dire, parce qu'en fait, il va y avoir des classes de lycée qui vont jouer à cet ancêtre du Monopoly. Et c'est absolument fabuleux, parce que c'est vraiment un des moyens de faire le lien entre un ouvrage savant d'économiste et puis le côté très, très ludique qu'il peut y avoir. Et à mon avis, pour beaucoup de lycéens, je trouve que quand on fait ce chemin-là, c'est aussi intellectuellement très stimulant de redécouvrir qu'il y avait un débat et que ce débat, il a été alimenté par un jeu et que finalement, tout le monde le connaît aujourd'hui parce qu'il s'appelle le Monopoly. Bon, passons à la table ronde. Il y aura peut-être un jeu autour de l'inflation aussi. Je sais en tout cas qu'il y avait déjà eu des tentatives de ce côté-là. Donc, à qui de droit, vous pouvez lancer le jeu sur l'inflation aussi pour les années à venir. Je laisse la table ronde prendre place.